prions. Ô Seigneur, le maître des temps et des circonstances, celui qui connaît le présent, mais qui connaît aussi le passé, qui connaît certainement le futur, celui qui a conduit son peuple depuis la sortie de l'Égypte et qui savait où il emmenait, celui qui nous a conduits tout au long de cette année, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à ce jour. Seigneur, jusqu'ici, tu as été fidèle. Et nous voulons, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce temps que nous passons ensemble, nous voulons encore, Seigneur, nous tourner vers toi pour avec toi tirer la conclusion finale pour cette année. Et nous voulons te remercier d'avance pour ta présence dans nos vies. Merci de nous conduire encore ce matin dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Petite lecture, nous allons lire un événement, un épisode dans l'histoire du peuple d'Israël, l'Ancien Testament. Moi, j'aime particulièrement l'Ancien Testament. Je trouve qu'il parle directement, il parle clash. Mais j'aime bien aussi le Nouveau Testament. Hein. Donc voilà, ne croyez pas que je n'aime que l'Ancien Testament. C'est vrai que je veux aussi honorer mon âge. Hein. Je vais vers ce qui est un peu plus âgé. Voilà. Donc non, mais j'aime aussi le Nouveau Testament. Voilà. 1 Samuel, chapitre 7. Nous allons lire du verset 9 au verset 15. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah et poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Avez-vous remarqué que dans notre société, dès que Noël est passé, dès que le 25 décembre est passé, on commence à partir du 26 décembre, avez-vous déjà remarqué que les médias tournent le dos à l'événement de Noël et commencent à se focaliser sur la rétrospective de l'année qui vient, qui va se terminer. On commence à faire des programmes pour raconter un peu qu'est-ce qui a été les événements les plus saillants de l'année qui va se terminer, ici en l'occurrence l'année 2015. On commence à évoquer les souvenirs, les faits qui ont mobilisé l'opinion publique, le bilan des actions, des hommes politiques, ce qu'ils ont fait, s'il y a eu des catastrophes, s'il y a eu des attentats, s'il y a eu des gros problèmes, des grosses décisions, le problème climatique, enfin, tout un tas d'histoires. Et parfois aussi, de temps en temps, on nous raconte l'histoire d'un petit chien qui a été très gentil. Pardon, Paul, je reprends une histoire que toi tu as racontée. Bon, voilà. Donc, eh bien, j'ai remarqué une chose qui est quand même un signe du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Avant, c'était chaque fois chaque chef d'État qui faisait son discours pour son pays. Avez-vous remarqué que cette année, certains chefs d'État ont adressé un message au monde entier? Vous avez remarqué ça? Barack Obama a fait un discours qui n'était pas destiné qu'à son peuple, mais au monde entier. Je crois que Poutine aussi, et je ne sais pas qui d'autre encore. Vous voyez, c'est... Bon, enfin, ça fait peut-être sourire, mais c'est la mondialisation. Nous y allons droit. Nous y allons tout droit. C'est un fait assez frappant. Enfin, quoi qu'il en soit, plus on s'achemine vers le 31 décembre, évidemment, plus on commence à faire le bilan de l'année, commence à regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été le point fort, qu'est-ce qui a été le point faible, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer d'une année comme celle-ci? Quelles sont les choses que nous voulons éviter, peut-être pour l'année qui va commencer en 2015 à 2016? Qu'est-ce qu'on veut garder comme un trésor? Et ce matin, je voudrais que, à travers ce texte, nous puissions aussi découvrir quel est ce trésor que nous pouvons garder pour 2015. Qu'est-ce qui est le plus merveilleux? Alors, ce récit évoque un événement qui a lieu à l'époque où Samuel est le juge en Israël. Vous savez qui est Samuel? Lève la main ceux qui connaissent Samuel. Bien, quelques-uns, chouette, chouette, super. Et des jeunes aussi, chouette, chouette, super. Des jeunes qui connaissent Samuel, c'est bien. Ah, pardon, il est là. Si vous ne le connaissez pas, il est là. Tu as levé la main aussi pour dire que tu connaissais Samuel. Non, toi, tu n'as pas levé la main. Toi. Tu ne connais pas, toi. Tu t'appelles Samuel, mais tu ne connais pas Samuel. Samuel, c'est un personnage incroyable de la Bible. Il est à la fois il est juge, c'est-à-dire il fait partie, il est le dernier juge, d'ailleurs le dernier des juges, c'est-à-dire les responsables politiques, administratifs du peuple d'Israël, ceux qui dirigent en fait le peuple d'Israël. Mais Samuel est aussi sacrificateur, et ça c'est exceptionnel. Et il est aussi prophète, c'est incroyable. C'est un homme qui a une personnalité, un rôle particulier dans la Bible. Il est malheureusement celui qui va avoir les plus grandes larmes de sa vie, va pleurer de toutes ses larmes, parce que Samuel va devoir accepter de chercher un roi pour le peuple d'Israël, alors qu'il sait pertinemment bien que c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Mais il va avoir aussi la consolation de pouvoir être conduit par le Seigneur à choisir et à oindre le bon roi, le vrai roi qui sera le roi David. La carrière de Samuel a été faite de beaucoup de peines. Cet épisode aussi en est un exemple de la peine que cet homme a vécue. Je disais que ce récit raconte un événement particulier du peuple d'Israël qui est confronté à une guerre contre les Philistins. Pendant des années, le peuple d'Israël était confronté à la guerre contre les voisins, ou ceux qu'il a trouvés sur la terre de Canaan, les Philistins. Et pendant des années, ils étaient en guerre. Et j'aimerais vous faire juste un court résumé des faits, et puis ensuite, nous allons vraiment tirer l'enseignement d'aujourd'hui. Mais si vous voulez comprendre l'ensemble de tout ce qui se passe avec la guerre entre Israël et les Israélites et les Philistins, il faut regarder les chapitres précédents, donc ce livre donc de 1 Samuel. Mais alors, il faut lire le chapitre 4, 5, 6. Et alors, nous parlons du chapitre 7 maintenant, et c'est dans ce chapitre-là qu'on voit un peu le résumé de toute la guerre qui se passe. Chapitre 4. Dieu va demander à Samuel de dire au peuple d'aller se battre contre les Philistins. Et le peuple y va. Ils arrivent à la guerre, boum, ils tombent sous les Philistins des terres, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on dit les jeunes. Déterminés, mais déterminés à fond. Qu'est-ce qui se passe? Boum, Israël perd la bataille. Il rentre déconfit. Oh, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Dieu nous a-t-il abandonnés? Mais enfin, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis que ces Philistins nous infligent la défaite? Pourquoi? Là, ils sont complètement dépassés. Déboussolés, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu fait ça. Mais ils se disent, ah, ben, on a trouvé une solution. Ils nous ont battus parce que nous n'avions pas l'arche de l'Éternel. Vous connaissez l'arche de l'Éternel? Hein? Oui? Dites oui quand même, dites-moi oui, parce que j'ai l'impression que là, c'est comme des gens qui regardent un gars qui raconte quelque chose de complètement incroyable. Hein? L'arche de l'Éternel, c'est le coffret qui se trouvait dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Ok? Bon, la description sera une autre fois parce que sinon, je ne veux pas dire une chose et oublier l'autre. Il demande donc que l'arche de l'Éternel vienne avec eux Parce que si l'arche de l'Éternel vient avec eux, ils ne peuvent pas perdre la guerre. Parce que c'est comme si Dieu était avec eux. Ils ne peuvent pas perdre la guerre. Comprenez? C'est la solution qu'eux ont trouvée comme la bonne solution pour faire l'affaire, pour gagner la guerre. On va gagner la... Allez, emmenez-nous l'arche de l'Éternel. Alors on emmène l'arche. Et vous savez qui a emmené l'arche de l'Éternel? Les deux fils du sacrificateur Élie. Vous connaissez Élie? Waouh! Élie, c'est celui qui laissait ses fils aller manger la nourriture qui était destinée à Dieu. C'est les fils-là qui jouaient un peu avec leur fonction de sacrificateur. Élie, c'était le sacrificateur qui a formé Samuel. Alors les deux fils emmènent l'arche et le peuple pousse des cris. Wouah! Si c'était les Grecs dans le film 300, je sais pas si vous regardez ça, c'est, non, je vous encourage pas à regarder ça. Mais enfin, voilà, dans ce film, les Grecs, pour exprimer les Spartiates, pour exprimer leur cri de guerre, ils font Aou! Aou! Je suppose que le peuple d'Israël a fait ça. Aou! Aou! Et puis, tout d'un coup, là en face, les Philistins disent, mais c'est quoi ce bruit-là? Oh! Et puis ils entendent, ils ont amené l'arche de l'Éternel. Les Philistins disent, on est foutus, on est Dieu, on a leur Dieu est avec eux, on est mal barre. Mais un Philistin leur dit, écoutez les gars, c'est la guerre, on se bat. Si on va être massacré, c'est la guerre, on y va. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ok les gars, on y va quand même. Même si Dieu est avec eux, on y va quand même. Et puis, la guerre s'emballe. Devinez qui a gagné la guerre. Comment? Les Philistins! Et cette fois-ci, c'était une vraie bastonnade. Hein? C'était une vraie bastonnade. Alors là, le peuple s'est dit, mais il n'y a vraiment pas, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Franchement, comment est-ce que, avec tout ce qu'on a fait, avec Dieu, à travers l'arche, nous perdons encore la bataille. Le pauvre peuple est complètement déboussolé. Mais les Philistins aussi, dans leur petite folie de victoire, commettent aussi une grave erreur. Ils disent, ok, c'était votre arche qui faisait votre gloire. Très bien, confisqué. On vous confisque ça comme ça. Très bien, on va voir encore comment vous allez vous vanter. C'était une erreur. Parce que l'arche est allée de leur côté et les a rendus malades. Tellement malade que se sont dit après, on va le ramener chez les Israélites parce que franchement ici c'est grave quoi. Il y a eu tellement de malheurs avec la présence de l'arche chez les Philistins. Eh bien, tous ces événements ont eu lieu et puis pendant 20 ans, rien. Enfin, rien, à part le fait que les Philistins sont restés dominants. Ils sont restés toujours en train de maltraiter les Israélites. Donc les Israélites avaient perdu la guerre. Ils étaient sous la domination des Philistins en permanence. Et ils ont commencé alors à se rendre compte de leur souffrance. Et pour la première fois, ils ont eu les bons réflexes. Ceux de dire, mais purée, pourquoi on souffre comme ça? Mais Dieu, où es-tu? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Voyez, quand ils ont fait venir l'arche de l'Éternel, ils n'ont pas été consulter Samuel. Hein. Ils l'ont fait tout seul. Ils ont dit, ah, la solution, les autres, on ne s'occupe pas de Samuel. Mais là, tout d'un coup, devant cette souffrance qui perdure, devant tous ces problèmes qui sont là, ils demandent alors à Samuel de les aider. Ils demandent à Samuel, ils se plaignent et se lamentent. Et c'est comme ça que Samuel va leur faire comprendre quelle est la source de leur souffrance, quelle est la source de leur peine. La source de leur souffrance, c'était l'idolâtrie. Ils combinaient le culte de Dieu et le culte des autres, enfin, le culte du Dieu d'Israël, le Dieu unique, et des autres divinités aussi qui vivaient autour d'eux. Ils combinaient plusieurs croyance. Et Samuel va leur dire, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Et il va rassembler tout le peuple. Et il va leur dire, voilà, nous allons faire un culte, une cérémonie en l'honneur de Dieu, où on va vraiment se remettre entre les mains de Dieu. On va vraiment repartir de nouveau avec le Seigneur. On va relancer notre vie avec Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, et c'est l'épisode que nous venons de lire, vous avez vu, il offre un sacrifice, Samuel offre un sacrifice. Et pendant ce temps, les Philistins disent, ils sont encore rassemblés là-bas. Ils n'ont pas encore compris la leçon. On va encore de nouveau les rebastonner une dernière fois quand ils vont bien comprendre. Ça, c'est les Philistins qui pensent. Mais cette fois-ci, trop tard. Le dispositif de Dieu a déjà été pris. Dieu a déjà pris d'autres dispositions. Il a déjà fait d'autres choix pour le peuple d'Israël. Et donc, les Philistins vont attaquer à nouveau le peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, ils vont être battus. Dieu va intervenir et les Philistins vont connaître la défaite. Et cette fois-ci, une défaite définitive, une défaite totale. Et en souvenir de cet événement, Samuel a érigé un mémorial. Il a pris des pierres, il a érigé un mémorial auquel il a donné le nom de Eben-Ézer. Et il a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un peu ça le titre de ma prédication. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remarquez que à partir de là, la paix est revenue en Israël. Israël a retrouvé sa liberté. Il a retrouvé son autonomie. Il a retrouvé son Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je voudrais prendre ce texte comme un support pour solder cette année. Cette année 2015. Nous aussi, comme le peuple d'Israël en son temps, nous avons été aussi confrontés à des combats multiples cette année 2015. Des maladies, des épreuves à tout niveau, des épreuves, des imprévus, des déceptions, des échecs, des trucs qui durent. Parfois, certaines épreuves ont duré. Tu crois que tu sors et boum, tu retombes. Quand tu sors, boum, tu retombes encore. Et pendant longtemps, on dit, mais enfin, jusqu'à quand? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Et certains de nos combats nous ont occasionné beaucoup de souffrances, de gémissements. Comme au temps du peuple d'Israël. Parfois, oui, parfois c'était un mauvais choix, notre mauvais choix. Parfois pas. Parfois des trucs, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Beaucoup de combats nous ont laissé un sentiment de défaite, d'échec, une impression que Dieu n'est pas là, que Dieu se tait. Voyez-vous? Mais ce que j'aimerais dire, et comme cela se fait dans l'expérience du peuple d'Israël, toutes ces épreuves, toutes ces défaites, toutes ces difficultés, eh bien, assez paradoxalement, nous ont conduits à la victoire finale, à la réussite. Tous ces combats nous ont souvent emmenés, en fin de compte, à genoux devant Dieu. C'est ça la vie. C'est ça la vie d'un chrétien. On aura beau essayer de faire des tas de choses, mais lorsqu'à un moment donné, on n'en peut plus, on se met à genoux devant Dieu. On dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le peuple d'Israël a fait des choix. Et des choix qu'il croyait être bien, parce que c'était dans la compréhension de ce qu'eux comprennent de Dieu, de ce qu'ils comprennent de leur vie chrétienne. C'était des bons choix, mais ce n'était pas des bons choix. Jusqu'au moment où ils se sont dit, non. On doit essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et ils ont trouvé Dieu de cette façon-là. Tous nos combats nous conduisent à genoux devant Dieu pour solliciter son aide et de la bonne manière. C'est là maintenant, mes amis, que je vais vous inviter à changer de cible de projecteur. Vous savez, les projecteurs des journalistes, là, hein, quand on veut mettre quelqu'un en lumière, vous voyez quand vous êtes dans une salle de spectacle, tout d'un coup on met chou, des projecteurs sous quelqu'un, et là vous remarquez que cette personne existe, parce que vous êtes dans le noir, hein. Vous voyez pas, hein. Lui on le voit, parce qu'on a mis le projecteur sur lui. Et je vous demande maintenant qu'on change de projecteur, pour bien comprendre les choses. Changeons de projecteur. Au lieu de mettre les projecteurs sur nous, les hommes, nous les chrétiens, nous les humains, maintenant changeons de projecteur. Mettons-le sur Dieu. Et pensons la rétrospective de cette année comme étant la rétrospective de la main de Dieu en 2015. Et là, on va voir que malgré nos combats, malgré nos défaites, Dieu nous a donné la victoire finale. Et si elle n'est pas encore venue, elle va sûrement arriver. Dieu nous donne ou nous donnera la victoire finale. Il permet que tous ces égarements, tous ces défaites, tous ces chemins que nous pouvons prendre aboutissent chez lui. Et que de lui, un chemin nouveau, un chemin de paix et d'espoir puisse s'ouvrir à nous. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de cette histoire? Qu'est-ce que le présent que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple d'Israël, lorsqu'il lit ce texte que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on retient le plus? On ne va pas retenir toute la souffrance du peuple d'Israël. On ne va pas retenir toutes les erreurs que le peuple d'Israël a fait. On ne va pas retenir le péché que le peuple d'Israël a fait. Non! On ne va retenir qu'une seule chose. Le mémorial. Le souvenir. Jusque-là. Jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. C'est ce qu'on retiendra. C'est ce que l'histoire retiendra. C'est ce que la mémoire des lieux retiendra. Ce n'est pas ce que les hommes ont connu, ont subi. Ce n'est pas ça. C'est uniquement ce que Samuel a gravé. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Et vous savez, le village qui va être formé autour de ce lieu va s'appeler aussi Ebenezer. Et c'est parce que vous n'êtes pas des grands curieux. Si vous êtes des grands curieux, vous verrez que l'auteur cite Ebenezer au chapitre 4. Mais ça n'existe pas encore. Le village n'existe pas. Dans le récit, il raconte ça quand ça existait. Mais le village ne va exister qu'à partir du chapitre 7, lorsqu'il va ériger ce mémorial. Le village va être établi ainsi, Ebenezer. Et aujourd'hui, nous parlons de ça. Alors, ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions avoir cette attitude de reconnaissance, rendre grâce à Dieu. Parce que il a été là dans nos combats. Et certains de nos combats, nous les avons gagnés grâce à lui. Et les combats que nous avons gagnés grâce à lui, combien de fois n'avons-nous pas éprouvé la paix? Oh Seigneur, merci. Combien de fois n'avons-nous pas vécu tout d'un coup libre par rapport à ça? Oh Seigneur, je suis libre de ça. Je suis dégagé de ça. Certains de nos combats ne sont pas encore gagnés. Mais s'il permet que certains combats soient gagnés, il permettra aussi que d'autres aussi le soient. Aussi. Souvenons-nous donc, en terminant cette année, d'être reconnaissants. Reconnaissants à Dieu. Reconnaissants à Dieu d'avoir été un secours fidèle. On ne s'est pas entendu avec Paul, mais tu as commencé ton culte avec le psaume 42. Non, 46, pardon. L'Éternel a été un secours pour nous de génération en génération. Dieu est notre secours fidèle, le secours de nos vies, dans nos vies. Souvenons-nous donc de mettre en avant Dieu. Et voyez-vous, nous avons dit qu'on a changé de projecteur parce que finalement, ce texte ne parle pas des hommes. Il parle des faits de Dieu, de ce que Dieu a fait. D'ailleurs, la victoire de la dernière guerre, le peuple n'a rien fait. C'est Dieu qui a fait retentir un tonnerre, qui a mis le peuple de Philistie en pagaille. Et ça les a amenés à courir dans tous les sens, à être paniqués. C'est Dieu. Ce texte met en lumière Dieu. Il met en lumière l'action de Dieu. Il met en lumière l'œuvre de Dieu. Notre rétrospective ne se porte pas sur ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. Ne se porte pas sur nos erreurs que nous avons fait ou pas. Se porte sur comment Dieu a fait les choses dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous voulons lui dire merci. C'est pourquoi nous voulons lui rendre grâce parce qu'il est l'artisan de notre vie en 2015. Celui par qui et grâce à qui les choses ont été possibles. Amen. Psaume 46, verset 2, que Paul avait lu. C'est... Je me suis trompé. Hein. Donc, je commence avec le 1. Mais chez moi, c'est 2. C'est bizarre. Enfin, bon, bref. Tu sais faire le 1 ? T'es gentil, toi. Il est toujours gentil, le monsieur, là. Très, très gentil. Alors, au chef de chantre des fils de Corée sur la lamente cantique. Voyez, verset 46.2. Enfin bref, j'ai rien dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une affirmation. Et le deuxième verset, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Même si il y a eu un 13. C'est 13 décembre, hein? C'est ça, les attentats de Paris. 13 novembre, même s'il y a eu des tsunamis, même s'il y a eu des volcans, même s'il y a eu, des choses terribles, même s'il y a eu des choses dans nos propres vies, même s'il y a eu des événements incroyables qui nous ont bouleversés, nous restons sans crainte. Non, tu peux laisser, hein? Je suis content avec les deux premiers versets. Nous restons sans crainte parce que Dieu a toujours été et sera toujours notre secours. Dernier texte, Hébreux, chapitre 4, verset 16. Voyez-vous, Ancien Testament, maintenant on rentre dans le Nouveau Testament. Qui est Jésus ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. La grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose auquel on n'a pas normalement droit. Mais Dieu a décidé de nous donner accès à ça. Mes amis, souvent nous nous fâchons avec Dieu. Souvent nous regardons Dieu comme étant quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous, qui ne fait pas bien les choses. Mes amis, est-ce que Dieu est-il obligé de nous bénir ? Est-il obligé de nous accorder ce qu'on lui demande? Est-il obligé? Est-ce que Dieu est-il responsable de tout ce qui nous arrive dans nos vies? Non! Mais Dieu dit, ok, je vous connais, vous êtes complètement nul, enfin, moi dans mon cas, vous peut-être vous êtes très bien, moi dans mon cas, j'avoue parfois. Mais je ne regarde pas à ça, je regarde à l'intention de mon cœur, et mon cœur à moi de Dieu veut te bénir. Mon cœur à moi de Dieu veut te combler, veut te tendre la main pour être ton ami. Souvent, nous rejetons cette main. Ah, laisse-moi tomber, laisse-moi tranquille, je vais mener ma vie tout seul. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est moi qui m'approche, c'est moi qui fais la démarche, ce n'est pas Dieu. Pourquoi ? Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. D'autres textes disent pour obtenir secours en temps opportun, quand il le faut, c'est-à-dire dans nos besoins. Dieu est le Dieu qui nous secourt. Depuis le 1er janvier jusqu'ici, jusqu'à ce jour. Il nous a secourus. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Rendons-lui grâce. Remercions-le. Terminons cette année avec action de grâce en disant merci Seigneur pour tout. Les combats, les peines, les souffrances, les joies. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Merci pour le fait que tu es l'artisan de nos vies. Merci parce que tu es concerné par ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous pleurons, tu pleures avec nous. Mais lorsque nous sommes contents, tu es content avec nous. Tu nous veux du bien. Tu veux nous bénir. Tu es ce roi débonnaire dont on a parlé dans ce chant. Tu es cet ami précieux, cette lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux. Nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait dans nos vies et saisir par la foi toutes les actions de grâce pour nous te remercier. Alors que le monde va faire une rétrospective où il va se plaindre des choses qui sont passées sur cette terre, nous allons faire une rétrospective pour te louer, pour te remercier, pour te bénir d'avoir été là, jusqu'ici. Tu nous as secourus et tu continueras encore. C'est jusqu'ici par rapport à l'épreuve dans laquelle le peuple d'Israël est tombé. C'est jusqu'ici par rapport aux épreuves par lesquelles nous sommes passés. Mais ça sera toujours jusqu'ici pour toute la vie, parce que ton secours ne manquera jamais. Gloire, honneur et puissance à toi. Nous te bénissons, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen.